VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du vendredi 2 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Psychose dans l'est de la République démocratique du Congo après deux nouveaux cas d'Ebola en 24 heures à Goma et deux décès.
Au Cameroun, Julius Ayuk Tabe, le dirigeant incarcéré des séparatistes anglophones, a entamé une grève de la faim.
Au Soudan, quatre manifestants ont été abattus jeudi lors d'un rassemblement à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump va étendre à partir du 1er septembre des droits de douane supplémentaires à toutes les importations en provenance de Chine.
La Corée du Nord a procédé aujourd'hui à d'autres tests de missiles.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Dans l'est de la RDC, il y a eu deux nouveaux cas de contamination au virus Ebola en 24 heures à Goma et deux décès. C'est la psychose qui s'installe. La frontière avec le Rwanda a été fermée plusieurs heures hier, même si Kigali a démenti toute fermeture. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un an après l'apparition du virus dans le Nord Kivu et une quinzaine de jours après la détection du premier cas à Goma, trois membres d'une même famille ont été touchés par l'épidémie. Après le père empailleur décédé mercredi, une de ses filles âgée d'un an et sa femme ont été testées positives. Jeudi matin, le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC avant de la rouvrir en début d'après-midi. Pendant quelques 8 heures, les Congolais n'ont pu aller à Gisenyi, frontalière de Goma. L'épisode a irrité Kinshasa qui a estimé que c'était à l'encontre de la recommandation de l'OMS sur la libre circulation des personnes. Cependant, Kigali a nié toute fermeture de frontières. Dans la province voisine du Sud Kivu, une femme proche de l'orpailleur a été mise en quarantaine avec 14 autres personnes. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a déclaré que les tests effectués sur ces 15 suspects se sont révélés négatifs. L'épidémie, qui a fait plus de 1810 morts et touché plus de 2700 personnes, a été élevée par l'OMS au rang d'urgence sanitaire mondiale.
Au Cameroun, le dirigeant des séparatistes anglophones, Julius Ayub Tabe, a entamé une grève de la faim à la prison de Yaoundé pour protester contre la disparition de co-détenus après les mutineries. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après Maître Joseph Fou, membre d'un collectif d'avocats qui défendent les séparatistes, Julius Ayuk Tabe et 9 de ses partisans ont cessé de s'alimenter pour une durée indéterminée. « Nous portons à votre attention notre décision de manifester par une grève de la faim », a écrit mardi M. Ayuk Tabe dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Laurent Esso. Dans ce document, les grévistes disent ainsi protester contre la disparition de leurs compatriotes de la prison centrale de Yaoundé et de celle de Boya après les récentes mutineries qui ont secouer ces deux prisons. Les détenus anglophones demandaient d'être traduits en justice et l'amélioration de leurs conditions de détention. Après ces incidents, le gouvernement a annoncé l'arrestation des 177 personnes qui ont été transférées ailleurs. Une rumeur faisant état de présumés actes de torture ayant entraîné la mort de Mancho Bipsi, un des leaders anglophones, a circulé sur les réseaux sociaux avant d'être démenti par le gouvernement. Selon Yaoundé, 45 personnes, dont 43 détenus, ont été blessées et 20 protestataires arrêtés.
Guinée équatoriale, Amnesty International a dénoncé ce vendredi la torture, la répression politique et les nombreuses violations des droits de l'homme sous la présidence de Teodoro Obiang Nguema. Ce dernier s'apprête à célébrer demain ses 40 ans à la tête de son pays. La gouvernance de ce petit pays hispanophone, qui bénéficie d'une importante manne pétrolière, est régulièrement critiquée par des ONG de défense des droits de l'homme. Une loi approuvée en 2006 interdisant la torture n'a pas été appliquée, puisque la police continue d'utiliser régulièrement la torture pour obtenir des confessions, affirme Amnesty International dans un communiqué.
Au Soudan, quatre manifestants ont été abattus lors d'un rassemblement à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum. Les négociations entre les militaires et la contestation ont repris hier soir. Claire Morin-Gibourg.
Le comité des médecins, proche de la contestation, a déclaré que quatre manifestants ont été tués par balles réelles et plusieurs ont été blessés lors d'un rassemblement à Omdurman. Les tirs ont eu lieu alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi dans plusieurs villes pour protester contre le meurtre cette semaine de 6 manifestants, dont 4 lycéens. Les discussions ont déjà été suspendues après la mort des 6 manifestants lundi lors de la répression d'un rassemblement. Le général Jamal Omar, membre du conseil militaire, a accusé les paramilitaires des redoutées forces de soutien rapide d'avoir tiré sur la foule.
Amnesty International a critiqué hier le gouvernement du Zimbabwe pour ne pas avoir traduit en justice les soldats qui ont tué 6 personnes et en ont blessé 35 autres dans des manifestations post-électorales le 1er août 2018. L'ONG a publié jeudi un communiqué marquant le premier anniversaire de la tuerie. Emmerson Mnangagwa, qui a succédé en juillet 2018 à l'autocrate Robert Mugabe, avait promis des changements.
En Ouganda, l'universitaire et militante Stella Nyanzi a été reconnue coupable hier par un tribunal d'avoir harcelé en ligne le président Yoweri Museveni et sa mère défunte. La peine doit être prononcée aujourd'hui. Selon son avocat, la militante est prête à faire face aux conséquences parce qu'elle pense se battre pour une cause juste. Elle avait entre autres fait référence sur Facebook à l'anniversaire de M. Museveni et regretté dans un langage cru que celui-ci ait vu le jour.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a relancé hier le bras de fer commercial avec la Chine en annonçant qu'il allait imposer 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a écrit le président Trump, précisant que les négociations qui ont repris cette semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin aux différends commerciaux entre les deux pays allaient se poursuivre comme prévu. Il justifie sa décision par le fait que Pékin n'a pas tenu, selon lui, deux engagements très importants, achat massif de produits agricoles américains et coup d'arrêt aux ventes de fentanyl, un opiacé très puissant qui fait des ravages aux États-Unis et dont la Chine est l'un des principaux producteurs. L'annonce du président a fait l'effet d'une bombe sur les marchés. Le pétrole a chuté de 6% à New York et les principaux indices boursiers à Wall Street sont passés au rouge. Les négociations entre Américains et Chinois ont pourtant repris cette semaine à Shanghai. Les deux parties ont fait état de discussions productives et promettent de reprendre langue en septembre à Washington pour tenter de mettre fin à ce conflit.
La Corée du Nord a tiré tôt ce vendredi des projectiles non identifiés de courte portée, a annoncé l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'état-major de l'armée sud-coréenne. Il s'agit de la troisième série de tirs de missiles en une semaine. Après un précédent tir de missile, Pyongyang avait expliqué qu'il s'agissait d'un avertissement au sud à propos des manœuvres militaires communes avec l'armée américaine.
En Thaïlande, plusieurs petites bombes ont explosé, faisant 3 blessés vendredi à Bangkok, qui accueille un sommet des ministres des Affaires étrangères des pays d'Asie du Sud-Est, en présence de leurs homologues américains, russes et chinois. La Thaïlande, familière des violences politiques et des coups d'État, reste profondément divisée après les élections controversées de mars, élections qui ont conduit l'ex-chef de la junte militaire, Prayut Chan-o-cha, à la tête d'un gouvernement civil. Mais les autorités ont exhorté à se garder de toute spéculation.
L'ONU va enquêter sur plusieurs raids aériens dans le nord-ouest de la Syrie qui ont touché certaines installations soutenues par les Nations Unies ainsi que des sites civils. Cette annonce du secrétaire général Antonio Guterres lui a valu l'ire de la Russie qui rejette toute responsabilité. Depuis avril, ces bombardements par le régime syrien et son allié russe sur la province d'Idleb, la dernière zone d'importance aux mains des djihadistes, ont entraîné la mort de 780 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Les femmes en Arabie Saoudite vont être autorisées à obtenir un passeport et à voyager à l'étranger sans l'accord préalable d'un gardien de sexe masculin, a annoncé jeudi le gouvernement. Cette mesure écorne le système saoudien de gardiens masculins qui assimile les femmes à des mineurs toute leur vie durant en les soumettant à l'autorité arbitraire de leur mari, père ou autre parent mâle. Décriées par les défenseurs des droits de l'homme, ces restrictions ont été déjouées ces derniers mois par plusieurs jeunes saoudiennes qui, faussant compagnie à leurs gardiens, ont fui à l'étranger. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minuteko Nanitalani.
Le Zimbabwe va abolir une loi qui pénalise les investisseurs étrangers et qui est accusée de ralentir la relance d'une économie moribonde. La loi sur l'indigénisation oblige les investisseurs étrangers à accorder jusqu'à 51% des parts des joint ventures à leurs partenaires locaux. Cette loi de 2008 était censée valoriser la majorité noire qui avait été désavantagée sous l'ère coloniale. Mais depuis, elle a été critiquée pour avoir effrayé les investisseurs étrangers et pour avoir essentiellement bénéficié aux alliés du président de l'époque, Robert Mugabe. Au Cameroun, la campagne cacaoyère 2018-2019 s'achève sur un prix maximum aux producteurs de 1050 francs CFA contre 1010 francs CFA au minimum selon le système d'information des filières. L'agence Ecofine écrit que ces prix devraient de nouveau fléchir au cours des prochains jours en raison de la saison des pluies qui s'annonce dans le pays. Elle a généralement pour corollaire l'impraticabilité des routes desservant les bassins de production. Cette situation conduit souvent les acheteurs à réduire les prix proposés aux producteurs afin de compenser les charges liées aux difficultés de transport. Terminons cette minute écho avec le gouvernement sénégalais qui ne compte pas céder face à l'opposition et la société civile qui appellent à rendre plus transparents les contrats d'exploitation du gaz naturel, rapporte l'agence Bloomberg. Cette pression est née à la suite d'un reportage de la BBC sur les conditions d'attribution des blocs gaziers. Le procureur a ouvert une enquête pour vérifier les informations contenues dans ce reportage.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Transfert, Nicolas Pépé rejoint Arsenal.
Oui, l'attaquant ivoirien de 24 ans qui évoluait depuis 2 ans à Lille en France s'est engagé à Arsenal en Angleterre selon les deux clubs qui ont officialisé le transfert d'un montant record pour les Gunners. La durée du contrat estimée à 5 ans par la presse n'a pas été révélée par les deux formations. Avec un transfert estimé à 80 millions d'euros hors bonus, Pépé, 22 buts, 11 passes décisives avec Lille la saison dernière, frappe désormais aux portes du top 15 des transferts les plus chers de l'histoire du foot. Il devient le joueur africain le plus cher de l'histoire, effaçant des tablettes le Congolais Cédric Bakambu, passé de Villarreal au club chinois de Beijing Guoan pour 74 millions d'euros à l'hiver 2018. L'Ivoirien s'inscrit également comme le transfert le plus onéreux d'Arsenal devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et ses 63 millions d'euros.
COSAFA féminin 2019, démonstration de force de l'Afrique du Sud et de la Zambie.
La Zambie s'est imposée 15-0 face à l'île Maurice grâce à des buts de Nachula, auteur d'un octuplé dans le groupe B où la Namibie s'est inclinée 0-1 devant le Botswana. En match d'ouverture mercredi dans le groupe A, l'Afrique du Sud, hôte du tournoi et tenante du titre, a infligé un sacré 17-0 aux Comores, qu'elle avait déjà battu 13-0 en 2014. Dans cette même poule, le Malawi a disposé de Madagascar 2-0. Enfin, dans le groupe C, le Zimbabwe a battu l'Angola 4-1 et l'Eswatini a pris le dessus sur le Mozambique 3-1.
La CAF va réexaminer la finale polémique de la Ligue des Champions.
L'organe dirigeant du football africain dit vouloir réunir incessamment ses instances compétentes pour statuer sur le sort de la finale retour polémique entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Après la décision du tribunal arbitral du sport qui lui demande de revoir sa copie, la finale retour disputée le 31 mai entre ces clubs de Tunis et de Casablanca, interrompue par les joueurs marocains furieux après une panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage, devait être rejouée sur un terrain neutre, selon une décision prise en juin par le comité exécutif de la CAF, mais le TAS a estimé que cette instance n'était pas habilitée à trancher.
Marseille lance sa première école internationale à Tunis.
Cette école, baptisée OM School Tunis, doit ouvrir le 7 septembre prochain. La priorité pour nous, c'est l'Afrique. Dans quelques semaines, ce sera en Algérie. Et après au Maroc, ont annoncé les représentants du club français. Le centre sera situé en périphérie de Tunis, dans un complexe sportif, disposant de 4 terrains, dont un stade pouvant accueillir 3000 spectateurs. Cette école entraînera des enfants de 5 à 16 ans, 3 fois par semaine sur le plan physique mais aussi psychologique, avec une inscription fixée à 235 euros par trimestre. L'OM rejoint ainsi la liste des nombreux clubs internationaux qui ont ouvert ces dernières années leur académie en Tunisie, comme le Paris Saint-Germain en 2017, la Juventus Turin en 2015 ou encore le Milan AC.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la présidence a indiqué que le trafic avait repris jeudi après-midi entre la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Gisenyi, 8 heures après la fermeture de la frontière, fermeture que Kigali a démentie. On avait signalé auparavant 2 nouveaux cas de contamination au virus Ebola en 24 heures à Goma et un 2e malade d'Ebola est décédé mercredi dans cette ville. À la frontière entre le Rwanda et la RDC, hier à Goma, notre correspondant Charlie Kasereka fait le point.
En moyenne, c'est autour de 45 000 personnes qui passent ici par jour dans les deux sens. Depuis l'annonce de la maladie à virus Ebola en RDC, les autorités congolaises ont installé des pots de lavage des mains comme ici à la petite barrière, l'un des passages utilisés par les petits commerçants de Goma et de Gisenyi au Rwanda.
Nous étions surprises ce matin en arrivant ici, voyant que la frontière est fermée. Il n'y avait même pas d'avertissement, pas de sortie ni entrée côté rwandais. Notre seul boulot, c'est de transporter les marchandises ici à la frontière. On nous dit que le motif de la fermeture serait Ebola.
Heureusement pour eux, vers 13h local, le Rwanda a ouvert ses postes frontières avec la RDC, soulageant toutes les femmes qui gagnent leur vie à cette frontière. Anifa, comme les milliers d'autres qui traversent tous les jours cette frontière, 3 à 4 fois par jour, c'est un soulagement.
Je suis très contente de voir la frontière rouverte. Je suis commerçant de la farine et je remercie les autorités.
J'étais là le matin, la frontière était fermée, nous avons tous été bloqués. Maintenant, au lieu de l'ouvrir, je dis merci aux autorités.
À Goma, la société civile locale demande les autorités sanitaires d'impliquer toutes les couches de la communauté pour mettre fin à cette épidémie. Placide Ndilama est cadre de la société civile ici à Goma.
Je crois qu'il y a lieu de renforcer la sensibilisation avec toutes les corporations, des transporteurs, des vendeurs de vivres. Donc toutes les corporations qui font des mouvements sur nos routes devaient être aussi associées à cette démarche-là de l'éradication de la maladie à virus Ebola.
Les autorités rwandaises ont ouvert la frontière Gisenyi-Goma en début d'après-midi. Une fermeture momentanée motivée par les nouveaux cas de la maladie à virus Ebola à Goma. Le matin déjà, Kinshasa a regretté une décision unilatérale de la part des autorités rwandaises. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Charlie Kasereka hier à la frontière entre la RDC et le Congo. De l'autre côté de la frontière, au Rwanda même, c'était aussi la confusion à Gisenyi, la ville jumelle de Goma. Idriss Fall a joint sur place Jacques Kaora, notre ancien correspondant.
Depuis hier, c'était la psychose la plus totale, non seulement à Goma, mais aussi à Bukavu, où tous les bateaux qui ont voyagé la nuit d'avant ont été interdits d'accoster. Et Papy a accosté qu'à 12h au lieu de 6h30 comme d'habitude.
À Gisenyi aujourd'hui, comment ça s'est passé à Goma?
Donc la psychose qui a pratiquement emballé les gens à Goma, qui a emballé les gens au sud Kivu et plus particulièrement à Bukavu, a été vécue aussi à Gisenyi. La frontière a été fermée depuis 6h du matin, ce qui a un peu surpris la plupart des Congolais, mais aussi des expatriés qui habitent Gisenyi. Comme vous le savez, la plupart des expatriés qui travaillent dans les grandes ONG à Goma habitent Gisenyi et donc ne pouvaient plus traverser. Les activités ont été perturbées et il y a des milliers de femmes qui traversent des deux côtés qui n'ont pas pu exercer leurs activités. Et donc, c'était la psychose la plus totale et les gens étaient dans une inquiétude, se demandaient quel sera le lendemain.
Apparemment, la frontière est rouverte depuis 13 heures, heure locale.
Seulement, c'était notre soulagement. À 13 heures, les messages ont pu circuler. Comme la nouvelle technologie est au top aujourd'hui, les gens ont commencé à s'envoyer des messages sur WhatsApp, Facebook pour dire voilà. Les frontières viennent d'être réouvertes. C'est comme ça que le mouvement a repris, mais timidement parce que.
La présence du virus, en quoi ça a changé les habitudes des gens, les relations interpersonnelles?
Ce qui est d'être à Goma ou être à Butembo, ou être même ici, la manière de se saluer aujourd'hui, on se salue plus à la main, on ne se touche plus, donc on ne s'embrasse plus. Donc, tout c'est compliqué, quoi. Tout le monde suspecte tout le monde. L'enfant suspecte ses parents, les parents suspectent les enfants, les amis, les amitiés. Donc, voilà, c'est compliqué, quoi. Qui pouvait croire que la frontière entre le Congo et le Rwanda pouvait être fermée, et plus particulièrement dans les villes comme Gisenyi, fermée parce qu'il y a des cas d'Ebola. Donc, c'est de la suspicion de tous côtés, quoi.
Joint hier à Gisenyi, Jacques Kaora, ancien correspondant de la VOA, qui habite à Gisenyi, au Rwanda.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma, en RDC, sur 96.2 FM.
En Mauritanie, l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prêté serment ce jeudi, parachevant ainsi la première transition présidentielle pacifique dans ce pays où les coups d'État furent longtemps la règle. Au micro de notre correspondant Mohamed Diop, l'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodman, a déclaré hier que les États-Unis ont hâte de travailler avec le nouveau président mauritanien. Le diplomate a aussi salué l'alternance démocratique en Mauritanie.
C'est vraiment un jeu très, très historique pour la Mauritanie et pour moi, comme l'ambassadeur américain en Mauritanie et comme un ami de la Mauritanie. C'était un vrai honneur d'être ici, non seulement pour la cérémonie d'investiture aujourd'hui, mais aussi pour l'élection et tout le processus démocratique que nous avons vu dérouler depuis ces derniers mois. Il m'a inspiré beaucoup, les discours de la présidente sortante, de la présidente élue, président Ghazouani, même aussi le discours de le président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous eu un sens d'optimisme pour l'avenir de la Mauritanie. Nous avons salué, et je salue encore une fois, l'administration de président Aziz et les décisions de la présidente de permettre les élections de continuer en accord avec la Constitution. Et nous saluons l'élection du président Ghazouani et nous sommes hâte de travailler fortement avec le président Ghazouani sur les questions importantes pour les deux pays, l'économie, la sécurité et les droits de l'homme.
L'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodman, propos recueillis hier par notre correspondant Mohamed Diop.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Dakuna Espoir, une association culturelle au Tchad. Elle œuvre depuis plus de 4 ans pour la récupération des enfants de la rue et des enfants démunis de N'Djamena. Les membres de cette communauté initient des danses dans les espaces publics comme un moyen d'attraction de ces enfants pour les placer dans un centre d'accueil. Notre correspondant André Kotmadjingar s'est rendu au quartier général de ses enfants. Son reportage.
Nous sommes dans le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis situé dans un quartier de la capitale. Parmi les quelques 500 enfants de la rue et de jeunes démunis sensibilisés à travers la danse, quelques-uns ont accepté d'être placés dans ce centre.
Aujourd'hui, au centre, il y a 62 enfants. Ils viennent de réinsérer déjà 10 dans leurs familles respectives. Et donc là, actuellement, ils sont 52.
Alevan Davokojut, directeur artistique de l'association Tchad Estar. Pour lui, il n'y a pas que de la danse au centre d'Akuna Espoir qu'il dirige, mais aussi de la formation professionnelle dans les domaines tels que la menuiserie, la couture et la mécanique pour aider ces jeunes à se prendre en charge dans l'avenir.
Il y a 15 enfants qui sont en formation professionnelle et aussi il y a des enfants qui ont fait 3 ans dans la rue et donc on les a aussi inscrits à l'école. Sur les 27 inscrits, il y a 24 qui passent en classe supérieure. Il y a 3 jeunes qui sont aussi inscrits au lycée. 2 ils passent en classe supérieure et ces enfants ne viennent pas seulement de N'Djamena. D'autres qui viennent aussi du Cameroun et même du Nigeria. Ceux qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiés dans la rue, on les a récupérés.
Les jeunes filles dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, pensionnaires du 10 centre affirme à VOA Afrique qu'elles ont été victimes de maltraitances, de divorces et de négligences familiales.
J'ai des problèmes avec ma tante paternelle. J'ai perdu ma mère quand j'avais 4 ans et mon père, je ne les connais pas. Ils sont séparés avec ma mère avant qu'elle m'accouche. Larry n'a jamais enfanté. On vient tous d'une famille.
Avant, je suis au Nigeria avec mon père, avec ma mère. Et puis ma mère, elle est malade. On est venu au village pour la soigner. Elle est décédée. Mon oncle, il m'a amené ici. Sa femme-là, elle me maltraite. Je suis sortie dans la rue.
Si les filles se retrouvent dans la rue par contrainte, les garçons, quant à eux, ont d'autres ambitions.
J'ai été attiré par les amis qui sont dans la rue et je me suis installé avec eux. J'ai même arrêté les études au niveau de 3e. Ça fait déjà 1 an et 2 mois que je suis ici. Et actuellement, j'ai fait la couture. Je suis très content parce que ma vie a été changée.
Je me suis retrouvé dans la rue à l'âge de 6 ans et j'ai fait déjà 10 ans dehors. Moi, je fais beaucoup de vols. Aujourd'hui, j'ai laissé toutes les choses qui m'avaient et j'étais en formation d'immunisé.
La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Viviane Van Stetegem, qui a rendu visite à ses pensionnaires, conseille aux responsables du centre de pensée à reconstituer le lien familial de ses enfants.
Même quand ce lien familial peut être assez compliqué, l'enfant devrait appartenir à une famille et que les enfants qui appartiennent à cette famille de Dakuna devraient être un petit peu l'exception. Et puis nous, on va voir comment les aider de manière plus précise.
André Podumbadingar, Diamena, VO Afrique.
Merci, merci les enfants, merci beaucoup.
VO Afrique, Diamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Suite de notre série sur les mariages précoces, selon Plan International, ce phénomène touche plus de 12 millions de filles chaque année. Ces dernières sont mariées de force avant l'âge de 18 ans, toute chose qui les prive de leur droit à l'enfance et à l'éducation, non sans limiter leurs perspectives d'avenir et d'évolution. Les mariages forcés et précoces maintiennent les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance de génération en génération. Dans les pays en développement, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans. À travers le monde, 650 millions de femmes mariées l'ont été pendant leur enfance. Suivons l'histoire de Caitlin qui vit dans le Tennessee.
Caitlin Burns. J'habite à Dyburg, dans le Tennessee. Je travaille tout le temps. Je prends soin de mon bébé, de mon mari. Je passe aussi du temps avec mes copains. C'est à peu près ça. Eh bien, je l'ai rencontré à peu près quand j'avais 13-14 ans. Il habitait à côté de chez nous. Je passais du temps avec sa famille et ses amis, ou ses sœurs. J'ai probablement eu un petit béguin, vous comprenez? Et il ne pouvait jamais garder une petite amie parce qu'elle n'aimait pas me voir autour de lui. Donc, une chose entraînant une autre, après quelques années, nous nous sommes retrouvés ensemble. Je suis tombée enceinte, mineure. Et c'est un peu ce qui nous a poussé à nous marier afin de lui éviter la prison. Beaucoup de gens le méprisent pour ça. C'est un peu pourquoi il ne voulait pas faire ça au début, vous savez. Mais comme je lui ai dit, je me fiche de ce que tout le monde pense. Je l'aime, tu sais, c'est tout. Je veux dire, tu sais, nous sommes comme n'importe quel autre couple marié. Nous avons eu nos problèmes, nous sommes séparés, et je suis allée rester un peu avec lui. Nous savons simplement que nous voulons vivre ensemble. Nous voulons être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne pourrais pas vivre sans lui. Ma mère était contre. Elle disait, vous savez, vous n'auriez pas dû le faire, vous en tirez les conséquences. Ma mère et moi, on a eu beaucoup de problèmes, vous savez. Elle est restée à mes côtés malgré tout. J'aime cette femme en mourir. Honnêtement, avant de me marier, j'étais une enfant, donc il n'y avait pas vraiment de facture. Et cela ne me manque pas vraiment, si ce n'est le fait de grandir et de devenir adulte. Ma vieille, c'est dur, c'est difficile. Mais à part ça, rien ne me manque vraiment, vous savez. C'est ma vie et cela me convient. Zena, ma petite fille, elle est ma fierté et ma joie. Et je ferai tout pour prendre soin d'elle et la protéger. Ma mère me demande toujours si je la laisserai aller avec quelqu'un de plus vieux. Non, probablement pas, parce que, vous savez, nous avons eu beaucoup de problèmes. Je veux dire, ça m'a beaucoup fait souffrir, mentalement et physiquement. Et je ne laisserai pas ma fille faire cela. Se marier jeune? Non. Non, ça sera un non. Je sais ce que cette décision m'a coûté. Je regrette, vous savez, de ne pas avoir fini l'école. Vous savez, ce sont des choses que vous ne devriez pas faire quand vous êtes un enfant, honnêtement. Je comprends cela maintenant. Mais à l'époque, je ne le savais pas, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.